Proverbes chapitre 11, nous lisons le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Il m'arrive quelquefois de dire à un enfant qui est à côté de son père ou de sa mère, j'aimerais te poser une question. Quand c'est son père, je dis, est-ce que ton papa est sage? L'enfant est surpris. C'est souvent aux parents qu'on demande si les enfants sont sages. L'enfant est surpris et j'ai quelquefois été étonné des réponses, telle cette petite fille qui regarde son père et qui me répond, parfois oui. J'aimerais vous développer avec vous cette pensée de ce verset que j'ai lu dans une autre version, la version Crampon. L'Écriture dit ceci dans cette version, « Le fruit du juste est un arbre de vie, l'homme sage fait la conquête des âmes. » L'homme sage fait la conquête des âmes. Est-ce que nous sommes sages? En considérant ce que ce verset nous dit, l'homme sage fait la conquête des âmes. Nous sommes tous convaincus que Jésus est à la porte. Je pense que vous êtes conscients qu'il ne nous reste que très peu de temps ici-bas sur cette terre. Et il est important de bien considérer que d'un moment à l'autre, Jésus peut revenir. Ça n'a pas l'air de vous enchanter? Oui ou non? Amen. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Vous savez, quelquefois, il y a plusieurs manières d'attendre. Le fiancé attend la lettre de sa fiancée. Il va à la boîte aux lettres. Ah, le facteur est encore passé. Il va revenir. Il y a cette façon d'attendre. Et puis vous attendez aussi ces jours-ci un courrier qui va vous venir de la part du percepteur. Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Il y a plusieurs manières d'attendre le retour de Jésus. Ah oh Seigneur, on en a ras-le-bol ici-bas, les épreuves, les soucis, les difficultés. Seigneur, viens vite, viens nous chercher. Et puis aussi, on aime tellement le Seigneur qu'on a envie d'être avec lui. Et attendre et attendre. Comment attendons-nous le retour de Jésus? Est-ce que c'est les difficultés de la vie qui nous poussent vers cette requête « Viens Seigneur Jésus », la dernière prière de la Bible? Ou est-ce que c'est notre amour pour le Seigneur qui nous attire à lui? Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous vivons les temps de la fin. À l'horloge du ciel, j'ai le sentiment qu'il est minuit moins une. Est-ce que nous sommes prêts pour partir avec lui? Est-ce que nous sommes prêts pour entrer dans la gloire? Écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul disait, on raconte partout. Comment vous vous êtes converti à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, vous connaissez la suite des versets? Qui nous délivre de la colère à venir. Tout à l'heure, dans une louange, j'ai entendu quelques paroles qui sont dans cette pensée. Faites-moi confiance, mes frères et sœurs, quand on considère les textes bibliques, quand l'Église va être enlevée, ça va chauffer, ici-bas sur la terre. La colère à venir, la colère de l'agneau. Un agneau, c'est un animal qui est doux. Jésus, l'agneau de Dieu, a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Mais quand celui qui est doux et humble de cœur va manifester sa colère sur un monde impie, rebelle, perverti, ça va chauffer. On connaît tous par cœur ce verset de Jean 3,16 qui résume tout l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Même dans ce verset qui nous parle de l'amour de Dieu, du sacrifice de la croix, il y a cette pensée du jugement à venir. Mes frères et sœurs, de même que Noé, que Dieu a mis Noé à l'abri dans l'arche, avant de juger sa génération pervertie par le déluge. De même que Dieu a fait échapper Lot de Sodome et Gomorre avant d'envoyer son jugement sur ses contemporains de ces deux villes, qui étaient dans la perversion la plus basse, de même Jésus va enlever son Église, la mettre à l'abri dans son ciel, avant d'exercer ses jugements sur la terre. Et mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Même si c'est votre mari, votre épouse, vos enfants, vos amis, vos proches, vos voisins, s'ils ne sont pas sauvés, s'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, s'ils n'ont pas mis leur foi dans la personne et l'œuvre de Jésus, ils sont en route vers le jugement. Mais la volonté de Dieu est exprimée clairement dans sa parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Même si votre voisin vous crée des soucis, Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il le veut d'une façon tellement intense qu'il n'a pas hésité à envoyer son fils Jésus, qui a payé le prix pour que tous ceux qui oseraient croire en lui soient sauvés. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous garde, je parle pour moi-même, de devenir des gens religieux. Qui ont leurs petites habitudes religieuses, qui viennent au culte, qui lisent la Bible, qui prient le Seigneur, en oubliant que ceux qui nous entourent, au près et au loin, sont perdus et en route vers les tourments éternels. On a tous encore à notre mémoire cette terrible image du tsunami, 26 décembre 2004, cette vague infernale qui a tout balayé. Ces pauvres gens qui ont été emportés, 232 000 morts et disparus en quelques heures. Mais il y a pire que cela. Il y a l'enfer. À la télévision, on nous a montré ces images et quelquefois on les a revues. Mais la télévision ne nous montrera jamais, ne nous parlera jamais de l'enseignement du Seigneur. L'enfer est une terrible réalité, bien plus effroyable que toutes ces catastrophes naturelles qui déjà se manifestent ici-bas. La Bible dit, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon sa justice. La justice des hommes, n'en parlons pas. Mais la justice de Dieu, elle est juste. Elle est juste. J'ai relevé une phrase de notre frère Donald G., cet homme qui a été appelé l'apôtre de l'équilibre, qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir. Il a dit ceci exactement, s'adressant au prédicateur, et je crois que cette pensée peut s'adresser à tout chrétien, parce que nous sommes tous appelés à témoigner. Nous devons prêcher le jugement, mais il nous faut le prêcher avec la gorge serrée et les larmes dans les yeux. Une expression qui doit nous amener à prendre conscience que ceux qui nous entourent, s'ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, Dieu le veut tellement qu'il n'a pas hésité à donner son Fils. Jésus n'a pas hésité à quitter la gloire. Il n'a pas hésité à affronter la croix. Et quelle souffrance a-t-il subi ? Pour que tous les hommes soient sauvés, mais ne le seront que ceux qui auront entendu, que ceux qui auront cru, que ceux qui se sont repentis de leurs péchés. La parole de Dieu dit que tous les hommes sont inexcusables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la création sous leurs yeux. La création elle-même est un message glorieux de la sagesse infiniment variée de Dieu. Une fois, un frère m'enregistrait pour une émission en vidéo, et puis je dis en direct, enfin c'était pas en direct, non, mais devant le micro, je dis, je suis un admirateur du Créateur et un adorateur de la création. Ah, j'ai dit stop ! Je me suis trompé. J'admire la création. et j'adore le Créateur. Oui. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses, quand on y prête attention, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Regardez le monde des fleurs déjà. Quelle multitude. Dans le monde des poissons, quelle multitude, quelle couleur. C'est extraordinaire. Tout dans la création est là pour interpeller l'être humain. Ça s'est quand même pas fait tout seul. Il faut être fou pour croire cela. D'ailleurs, la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il y a une création si merveilleuse parce qu'il y a un Créateur, et cela doit les interpeller pour les amener, justement, à chercher Dieu. Mais l'Écriture dit, ils ne se sont pas souciés de le connaître. Ils sont donc inexcusables. La parole de Dieu nous montre que la doctrine des tourments éternels est véritable. Elle se réalisera. Bien sûr, ça peut choquer notre conception de l'amour. Et certains, quelquefois, m'ont dit, mais comment pouvez-vous croire qu'un Dieu qui est tellement amour ne puisse jeter en enfer des âmes qu'il a créées et qu'elles soient tourmentées au siècle des siècles? Oui, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour humain. L'amour de Dieu, il est saint. L'amour de Dieu est juste. Et parce que Dieu est amour, justement, pour nous faire échapper à ce terrible jugement, à cette éternité de tourment, il a sacrifié son Fils, qui a payé le prix que vous savez, afin que nous puissions être pardonnés et sauvés pour l'éternité. L'amour de Dieu est juste, il est saint. Et l'amour de Dieu, parce qu'il est juste, le lui impose. Ou bien, le pécheur est perdu et condamné, ou bien, il croit en Jésus, se repent, et il est sauvé parce que Jésus a payé le prix. Pourquoi donc la croix? À cause de la sainteté et à cause de l'amour, de la justice de notre Dieu. Que cette vérité de l'enfer puisse en quelque sorte nous empoigner dans notre cœur et nous amener à accomplir cette volonté de Dieu qui est exprimée par l'apôtre Jude, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres. C'est notre vocation de chrétien. C'est notre vocation de témoin. La parole de Dieu nous l'enseigne clairement. Un jour, un docteur de la loi a posé cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il a répondu par deux. Le docteur de la loi avait dit quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une version a traduit, et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que dans le cœur de Dieu, dans sa pensée, et l'aimer lui doit nous amener à aimer notre prochain. Dans la pensée de Dieu, on ne peut pas dire j'aime Dieu et être indifférent à l'égard du prochain. C'est aussi important. Alors je peux considérer la réalité de mon amour pour Dieu dans l'attitude que j'ai vis-à-vis de mon prochain. La grande préoccupation du Seigneur, c'est le salut des âmes. Et il est vrai que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous remarquerez en relisant le texte à la fin de l'Évangile, c'est dans un contexte de témoignage, d'évangélisation. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici, je suis avec vous. Nous n'avons pas le droit de dire, je ne sais pas témoigner. S'il y a dans notre cœur l'amour de Dieu, il doit y avoir aussi l'amour du prochain. Et comme le Seigneur nous fait la promesse d'être avec nous, si nous avons un cœur de témoigner, eh bien il nous accompagnera de sa grâce. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'homme sage fait la conquête des âmes. Le peuple de Dieu doit avoir un esprit de conquête. Vous savez que les Normands sont considérés comme des conquérants. Pas les Normands d'aujourd'hui, mais à l'origine, des conquérants. Nous devons avoir un esprit de conquête en tant que peuple de Dieu. Je lis par exemple dans Josué 1:11... vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays que votre Dieu vous donne en possession. Dieu le leur donnait, mais ils devaient le conquérir. Et je crois que nous devons avoir dans notre cœur cette prière, Seigneur, donne-moi des âmes, mais pas se contenter de prier, mais d'aller, avec sa grâce, chercher à les conquérir pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus. Caleb avait aussi un esprit de conquête. Entendant les murmures qu'il y avait dans le peuple à cause du rapport défaitiste des 10 espions, eh bien Caleb dira ceci, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» On sait que malheureusement, le peuple n'a pas écouté Josué et Caleb, mais les défaitistes, et ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et quelquefois, malheureusement, quand on ne veille pas à accomplir la volonté de Dieu, on tourne en rond dans sa vie chrétienne, qui devient un véritable désert, une vie desséchante. On n'y prend plus plaisir et on risque de devenir religieux. Le peuple de Dieu doit avoir un esprit de conquête. L'apôtre Paul avait un esprit de conquête. Il essayait de se faire tout à tous, afin d'en gagner de toute manière quelques-uns. Que le Seigneur nous donne d'avoir cet esprit de conquête. Vous savez que le monde industriel sait que l'esprit de conquête est un facteur important de réussite. On s'efforce de conquérir de nouveaux marchés, on s'efforce de conquérir de nouveaux contrats, et cela permet ainsi à l'entreprise de se développer. Et je crois que s'il y a dans chacun de nos cœurs, nous chrétiens, enfants de Dieu, cet esprit de conquête, cette sagesse de Dieu qui va faire que nous allons chercher avec sa grâce à nous emparer des âmes, eh bien, cela va faire prospérer l'Église pour la gloire de Christ. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur chacun d'entre nous. J'ai un ami pasteur que certains connaissent peut-être, le frère Marc Lespinasse. Le départ de sa conversion et de sa famille, c'est une gamine de 12 ans à l'école qui a vu sa maîtresse dans la tristesse et qui lui a dit à la récréation, « Madame, vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe ?» Elle avait son frère qui était condamné. Et elle lui a dit, « Jésus peut faire quelque chose pour votre frère. » Voilà quel a été le point de départ de la conversion de toute une famille. Un enfant de 12 ans. Ça ne vous rappelle pas une petite fillette aussi dans la Bible qui a parlé de quelque chose? Oui, la guérison d'âme. Alors si Dieu peut se servir de fillette, moi je dis quelquefois, Dieu s'est même servi d'une ânesse un jour et peut se servir de moi. Le Seigneur, c'est lui qui sauve. Nous semons, nous témoignons, mais on ne peut pas faire plus. Ce n'est pas nous qui allons convertir les gens. C'est lui qui le fait. Et c'est lui qui ajoute les âmes à son Église. Amen. Et si chacun a à cœur cette œuvre suprême de l'Église, l'évangélisation, le témoignage. Le frère Van de Put, que vous connaissez peut-être, a écrit dans un de ses livres, « Nous aurons toute l'éternité pour adorer le Seigneur. » Et c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui. Mais là-haut, on ne pourra plus évangéliser, ce sera trop tard, ce sera fini. C'est pendant que nous sommes sur la terre. D'où l'importance de l'évangélisation. Jésus est à la porte, j'aime cette image que j'ai relevée je ne sais plus où, il a la main sur la poignée, comme pour nous montrer l'imminence de son retour. Il n'y a plus grand temps, il y a peu de temps, très peu de temps, il y a une urgence. Et il y a encore tellement d'âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il compte sur nous pour être ses témoins. Jésus n'a jamais dit que c'était aux âmes de venir vers nous. Quelquefois ça arrive. Mais c'est à nous d'aller vers elles. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Rapidement, je cite, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans l'évangile de Luc 14, va promptement dans les places, le long des haies, vers les estropiés, amène ici les pauvres, les aveugles, etc. puisse posséder de Gadara qui a été délivré par le Seigneur, qui aurait tellement voulu rester auprès du Seigneur, il était tellement bien auprès de celui qui l'a délivré, qui a changé sa vie radicalement, eh bien le Seigneur lui dira, non, tu vas vers les tiens, tu vas leur raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est notre mission, mes frères et sœurs. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Vous savez quelle fut la dernière parole de Jésus avant de monter au ciel ? Allez, c'est les vacances ici, non ? C'est pas les vacances ? La dernière parole de Jésus. Acte 1:8, Jésus dit, « Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous parlerez en langue. » Il n'a pas dit « Vous parlerez en langue ? » Pourtant, c'est vrai. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en langue. Il a dit non, et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous recevrez une grande force, le Saint-Esprit, et vous serez de bons chrétiens, ce qui devient logique. Mais vous serez mes témoins. C'est la toute dernière parole de Jésus au verset 8 et verset 9, s'il vous plaît, si vous pouvez l'afficher. Après avoir dit cela, il fut élevé. Ça a été sa toute dernière parole. En principe, on accorde une grande importance aux dernières paroles de quelqu'un qui va mourir, qui va nous quitter. On respecte scrupuleusement ce qu'il demande. Jésus dit, en dernière parole avant de quitter la terre, vous recevrez une grande force parce qu'on en a besoin. Sans lui, on ne peut rien faire. Et vous serez mes témoins. Vous connaissez la parabole du bon samaritain ? Elle est magnifique, cette parabole. Ce pauvre gars qui tombe entre les mains du brigand, des brigands, qui est roué de coups, dépouillé, laissé là sur le bord du chemin, gisant dans son sang, et voilà qu'un homme arrive, un brigand de passage. Qui c'est qui vient ? Un samaritain. Non. Un sacrificateur. Il arrive. J'imagine que ce gars qui est là blessé, qui souffre, en voyant ce sacrificateur arriver, ah, quelqu'un qui va me secourir. Vous savez ce qui s'est passé ? L'ayant vu, il passa outre. Une version a traduit, il traversa la route, passa de l'autre côté et poursuivit son chemin. Vous savez, quelquefois, comme des gens dans le monde, pas dans l'église, hein, qui ne peuvent pas se voir, ça arrive quelquefois dans le monde. Alors il marche sur le même trottoir et il aperçoit l'autre en face. Alors il traverse, parce qu'il n'a pas envie de le rencontrer. Il y a un magasin là, il regarde ce qu'il y a dans le magasin, ça ne l'intéresse pas, mais il regarde le temps que l'autre passe. C'est un peu l'attitude du sacrificateur. Hein. Quelle déception pour cet homme blessé. Puis un deuxième arrive, un lévite qui a fait la même chose. Et en y réfléchissant, je me suis dit quand même, voilà deux hommes qui connaissaient le temple, des habitués du temple, des habitués de la synagogue, qui connaissaient la Torah, la parole de Dieu, qui chantaient, pas n'importe quoi, mais des cantiques, des psaumes, parole de Dieu, qui priaient, pas des idoles, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai, des hommes habitués à la maison de Dieu, capable de chanter des psaumes, capable de prier l'Éternel, passer à côté de quelqu'un dans la détresse, avec un cœur cruel d'indifférence. C'est terrible ça. C'est terrible. L'indifférence. Un chanteur français bien connu disait « Tout, mais pas l'indifférence ». La version du semeur a traduit cet homme, s'en écartant, poursuivit sa route. J'ai rencontré il y a quelques années un pasteur baptiste américain qui a fait une étude sur une année pour savoir comment nos assemblées en France, les assemblées de Dieu, s'étaient développées. Il nous a donné le résultat de son étude et en particulier j'ai retenu ceci, l'efficacité des réunions d'évangélisation dépend du réseau de contact qui fait le pont entre les inconvertis et les réunions où l'Évangile est prêché. Trouvez ça très important. Le succès des réunions d'évangélisation dépend d'abord, bien sûr, de l'action du Saint-Esprit et de la fidélité dans la prédication. Mais aussi, ce qu'il a remarqué, ce qui a été, en quelque sorte, je le mets entre guillemets quand même, le succès des assemblées de Dieu, parce que on n'est quand même pas sur 67 millions de Français, on n'est pas encore 1 million de convertis, ça serait déjà beau. C'est justement ce réseau de contact. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu la joie, il y a quelques années, de baptiser une sœur d'un certain âge, toute simple. Toute simple. Elle se trouvait dans le bus, dans un bus de la ville du Havre, assise tout près d'elle, de l'autre côté du passage, elle voit une femme qui pleurait discrètement. Émue de compassion pour cette femme qui ne pleurait pas pour rien. Comme Jésus a été ému de compassion devant la foule en détresse, cette chrétienne s'est levée, lui a donné un prospectus en disant tout simplement « Je vois que vous êtes dans la souffrance, sachez que Dieu vous aime, venez écouter l'Évangile, voilà, vous avez l'adresse, vous avez les heures de réunion » et elle retourne à sa place. C'est toute la prédication qu'elle a faite. Cette dame est venue à la réunion avec sa fille de 18 ans. Le Seigneur l'a guérie de sa dépression qu'elle traînait depuis des années. J'ai eu la joie de le baptiser, ainsi que sa fille, parce qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur. Pourquoi ? À cause du réseau de contact. Cette sœur, membre active du réseau de contact, elle n'a pas pu rester sur son siège en voyant cette pauvre femme pleurer discrètement. Je prie souvent le Seigneur en me disant, Seigneur, en lui disant, donne-moi ta compassion. Je crois que c'est de cela que nous avons besoin. Que j'ai besoin. La compassion. Il y en a tant qui souffrent. Un dimanche matin, avec mon épouse, on s'en allait au culte au Havre. Et puis, il était à peu près 9h30. Je vois là passant devant la poste un homme qui déjà avait dû avoir soif. Heureusement que le mur était là pour l'aider à tenir debout. Et je dis à ma femme, regarde cette pauvre épave. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Vous n'osez pas répondre. Ma femme m'a répondu, c'est une âme pour laquelle Jésus a donné sa vie. Bing. 5/5, j'ai reçu. Dieu m'a parlé dans la voiture avant d'être dans l'église. C'est une âme pour laquelle Jésus a donné sa vie. Comment regardons-nous les âmes? Avec quel sentiment? Avec quel état d'esprit? André, frère de Simon, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, était lui aussi membre actif du réseau de contact. Il dit à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ, et vous savez la suite, ce qui s'est passé. » Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et les prophètes. On parlait Jésus de Nazareth. Philippe dit à Nathanaël, « Viens et vois !» Est-ce que nous avons trouvé quelque chose, nous? Est-ce que nous avons trouvé le Sauveur? Est-ce que nous avons trouvé la paix? Est-ce que nous avons trouvé la joie? Est-ce que nous avons trouvé le bonheur, le salut, l'espérance de la gloire? Alors, partageons autour de nous. La Samaritaine, vous connaissez le récit. La Samaritaine dit aux gens de la ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle n'a pas eu une grande formation pour le témoignage et l'évangélisation. Je ne dis pas que c'est pas utile, j'y participe quelques fois, mais c'est surtout là. C'est là, comme c'est dans le cœur de Dieu, le salut de ceux qui périssent. Ce doit être aussi dans notre cœur, à nous chrétiens. Frère Donald G. disait, « Devons évangéliser ou faillir misérablement en tant que réveil. » ajoutant la sanctification, c'est ce que l'Église doit être, l'évangélisation, c'est ce que l'Église doit faire. Chaque chrétien, authentique, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, doit avoir ce feu dans son cœur, le salut des âmes, et contribuer par tous les moyens possibles et honnêtes. Je n'ai nullement l'intention de juger, de condamner qui que ce soit, je ne vous connais pas. Mais j'aimerais tellement qu'avec la grâce de Dieu, chacun puisse prendre conscience que le temps est court, extrêmement court. Je reprends cette image, Jésus a la main sur la poignée de la porte, il va bientôt venir nous chercher, et qu'il y a encore tellement d'âmes à sauver, tellement d'âmes pour lesquelles Jésus a payé de sa vie et de son sang pour les racheter. J'ai fait une expérience tout jeune stagiaire qui m'a beaucoup encouragé. Vous savez, quelquefois on a besoin d'être encouragé. Hein. Jean Tichy connaît très bien Rouen. Il y a près d'un lieu de culte sur la rive droite, la place du Vieux Marché, où Jeanne d'Arc a été brûlée. Et je ne faisais pas chanter, je ne prêchais pas, mais j'allais à la réunion. J'ai dit, Seigneur, je veux entrer dans ta maison avec quelqu'un, avec une âme. Alors je vais sur la place du Vieux Marché, le lieu de culte est à 25 mètres, et puis j'essaie d'inviter, mais ça ne marchait pas. Puis j'invite un homme. Il me suit. On entre, juste la réunion commence. Et ce jour-là, il y avait un missionnaire qui avait travaillé parmi les Touaregs dans le désert. C'est compliqué ce qu'il a dit. Il a pris des images du désert. Je me suis dit, ça tombe mal. Pour une âme nouvelle, quand même, c'est vraiment compliqué. Alors moi, je dis, la réunion terminée, je dis à cet homme, vous savez, je vous invite à revenir dimanche prochain à la même heure. Ah, mais il me dit, je ne peux pas, hein. Je suis de passage. Il se promenait, le monsieur. Il n'était pas de Rouen. Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu spécial, c'était un peu compliqué. Alors, venez, c'est dommage que vous n'êtes pas là dimanche soir. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien compris. J'ai travaillé des années dans le désert. Moi, je voulais rectifier le travail du Seigneur. Mais... ça m'a encouragé ce jour-là. Je suis avec vous. Si... considère le contexte, c'est le témoignage, c'est l'évangélisation, et Jésus dit, je suis avec vous. On est à 200% dans la volonté de Dieu quand on témoigne. Ça ne marche pas comme ça à tous les coups, c'est vrai. Mais ça vaut la peine d'en gagner de toute manière quelques-uns. Vous permettez une question? Vous ne me répondez pas. Hein. Vous ne me répondez pas. Hein. La dernière fois que vous avez témoigné à quelqu'un, vous donnez un évangile, une Bible, un Nouveau Testament, un appel de vie, que sais-je encore, ça remonte à quand? Non, mais j'ai dit, vous ne me répondez pas. Vous ne répondez pas à chacun de se placer devant Dieu. Ça remonte à quand? J'ai quelquefois vu des mimiques, quelquefois. Non, mais mes frères et sœurs, Dieu veut, et il le veut d'une façon tellement forte, que tous les âmes soient sauvées. Il a dit, mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Un frère, serviteur de Dieu du nord de la France, m'a dit récemment, on a été cambriolés dans l'église, tout plaçonneau, tout ça, c'est parti. Et pour les questions d'assurance, il dit, on a porté plainte contre X. Et une femme, je regarde l'heure, oui, une femme commissaire de police est venue pour essayer de relever des empreintes un peu partout, y compris près de la date de publication. Et une fois qu'elle eut terminé, elle dit à ce frère, vous savez, nous on fait un travail qui est de plus en plus déprimant. C'est vrai que la presse nous a précisé qu'en 2014, il y a eu 55 policiers qui se sont suicidés. À cause du manque d'effectifs, à cause de la dépravation galopante. Et cette dame, commissaire de police, de dire au frère, parmi vos livres que vous avez là, vous n'avez pas un livre qui pourrait me faire du bien? Ben, le frère, il a sauté à pieds joints. Il lui a offert la Bible, puis un livre dont vous avez peut-être entendu parler, Jésus, ce célèbre inconnu. Cette dame est partie. Alors, quand le frère m'a dit ça, j'étais content. Il dit, attends, c'est pas fini. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame m'habite juste en face d'une église évangélique du CNEF. Pas des deux, mais c'est des gens sérieux, qui prêchent l'évangile. Le frère connaît cette église. Et au bout de quelque temps, elle s'est décidée à traverser la rue. Elle a écouté l'évangile, elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et quelques mois après, c'est sa maman qui a suivi le même chemin. Si le frère n'avait rien dit, là, il faut reconnaître que le Seigneur lui a tendu la perche. Et quelquefois, le Seigneur nous tend la perche. Mais n'oublions pas que si nous avons honte de Jésus, au dernier jour, Jésus aura honte de nous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, vous le savez. Quand la semence, vous savez que la parole de Dieu est comparée à une semence. Vous avez un grain de blé, par exemple. Vous pouvez le garder longtemps dans un bocal en verre. On a retrouvé dans des sarcophages en Égypte des grains de blé qui étaient là depuis des siècles. On les a mis en terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont germé, ils ont poussé. Parce que dans le grain, il y a le germe, il y a la vie. Mais tant que le grain de blé n'est pas dans l'élément auquel il est destiné, la vie ne se manifeste pas. Mais dès que le grain de blé est en terre, avec l'humidité, il va germer et il va pousser, portant du fruit. Nous, nous sommes appelés à semer. Nous avons le grain de blé, nous avons la parole, hein, la semence divine. Et si on peut en faire ce que l'on veut tant qu'on l'a dans la main, quand il est en terre, il n'est plus, nous ne pouvons plus rien faire, sinon arroser. Le grain de blé n'est plus sous notre contrôle, mais là il est sous le contrôle de Dieu, le Créateur. La parole de Dieu nous le dit clairement, ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. On perd le contrôle. On ne peut plus rien faire quand on a témoigné à quelqu'un. Quand on a donné un Nouveau Testament, un Évangile, un appel de la vie, que sais-je encore, on ne peut plus rien faire sinon arroser par la prière. Mais Dieu, il donne à l'être humain l'occasion d'être sauvé. Après, c'est sa responsabilité à lui. Mais s'il ouvre son cœur, le Seigneur fait croître sa parole dans le cœur. Alléluia. Pour conclure, j'aimerais vous donner trois paroles d'encouragement. La première, dans 1 Corinthiens 15, 58, si le frère peut l'afficher, merci. Voici ce que dit l'Écriture. Bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne perd pas son temps quand on témoigne, quand on évangélise. Je crois que c'est Georges Müller ou un homme de ce... J'allais dire de ce calibre-là, un homme d'envergure, un homme de Dieu. Je crois que c'est lui qui a prié pendant 40 ans pour la conversion d'un ami et il est mort sans voir la conversion de son ami. Mais le jour de son inhumation, son ami au pied de la tombe de Georges Müller s'est donné au Seigneur Jésus. On ne perd pas son temps. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je sais qu'il y a des radis, quand on les plante 18 jours après, c'est bon. Mais avec Dieu, la semence divine ne lève pas forcément tout de suite. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux 6, 10. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que c'est juste que l'apôtre Paul, dont la consécration a été ce que vous savez, qui en a vu de toutes les couleurs pour servir Dieu, qui a connu des épreuves, des situations difficiles, croyez-vous que ce soit juste que l'apôtre Paul soit dans le même paradis que le brigand qui, au dernier moment, qui avait du sang sur les mains et qui a été condamné par la justice humaine, soit aussi avec le... Non, avec Jésus dans le même paradis. C'est juste ça? Voilà, c'est la grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres, hein. C'est la grâce. C'est juste, parce que Jésus a payé pour tous. Mais Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail, vous remarquez l'association travail et amour. On peut travailler pour son patron sans pour autant l'aimer vraiment. Mais pour le Seigneur, c'est différent. travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore des services aux saints. On ne peut pas rendre un meilleur service à une âme perdue que lui donner l'occasion d'être sauvé en lui donnant l'Évangile, en lui faisant connaître Jésus. Et enfin, 1 Corinthiens 3:8, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On ne travaille pas pour la récompense, on travaille par amour, pour Dieu et pour le prochain. La récompense, c'est l'affaire du Seigneur. Mais on a un couple dans l'assemblée qui, il y a quelques années, en pleine nuit, alors que tout le monde dormait, ils étaient 5 dans la maison, un incendie s'est déclaré. Un court-circuit, un incendie. Le frère qui était au premier étage a entendu un bruit. Il a cru qu'il était cambriolé, qu'il descend l'escalier en faisant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, c'est Dieu qui l'a réveillé. Sinon, il y avait 5 morts. Ils ont tout perdu. Ils se sont retrouvés dans la rue. À peine étaient-ils dehors, tout s'est embrasé. Ils ont tout perdu. Sinon, leur pyjama et leur chemise de nuit. Et la sœur qui était dans la rue, les voisins, ça fait du bruit, une maison qui brûle, se sont levés. Elle leur a dit, voyez-vous, il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre, tout part en fumée. Chapeau, hein? Chapeau. Il y a des chrétiens qui seront sauvés comme au travers du feu. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, que vous croyez quand même à l'éternité. Et que quand nous paraîtrons devant le tribunal de Christ, comme le dit l'Écriture, chacun recevra selon son propre travail. Ce que je suis, ce que vous êtes, ce que je fais, ce que vous faites, ce que nous sommes, ce que nous faisons, aura des conséquences éternelles. Il y aura non seulement des conséquences éternelles, mais il y aura une amplification. Vous connaissez ce texte ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en beaucoup de choses. Je te confierai un petit peu là-haut. Ne dites pas amen surtout. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Mes frères et sœurs, ce que nous aurons été, ce que nous aurons fait aura des conséquences éternelles. Il y aura une amplification. Non seulement une prolongation, mais une amplification. Que le Seigneur puisse nous dire à chacun, ce jour-là, cette parole, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as fait ce que tu as pu, en comptant sur ma grâce. Tu as mis tout ton cœur. Tu as travaillé dans la mission la plus importante que le Seigneur t'a confiée en tant que chrétien, en tant qu'Église. Chercher à conquérir des âmes pour son royaume et pour sa gloire. Vous connaissez bien ce cantique ? Un vieux cantique ? Je ne suis pas vieux, mais il y a des vieux cantiques que j'aime beaucoup. Il y a aussi des cantiques modernes qui sont super. Cherchons-les. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme ? Le prix d'une âme, la croix. Le prix d'une âme, le sang de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Et que, au cours de cette mission, nous puissions laisser le Seigneur et le Saint-Esprit rallumer en nous, dans nos cœurs, la flamme divine. Que le Seigneur nous fasse la grâce de l'aimer lui et d'aimer notre prochain, d'avoir de la compassion. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rallumer cette flamme. Vous savez, mes parents ont vécu le réveil. Moi, je suis né un peu après quand même. Les réunions du dimanche après-midi, et même encore il y a quelques années, il y avait plus de monde que le matin. Parce que l'après-midi, il y avait aussi les chrétiens et les inconvertis en plus. Et les âmes s'ajoutaient à l'Église. Mon frère, ma sœur, est-ce que vraiment nous aimons le Seigneur ? Est-ce que ce ne sont que des paroles ? Est-ce que nous sommes passionnés pour Jésus ? Passionnés pour ceux qui périssent, afin d'essayer, avec sa grâce, d'en gagner au moins quelques-uns. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.